Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Professeur Eric Combe, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous recevoir. Chef du service infectiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous publiez, et nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission, vous publiez un livre qui a pour titre « Maladie de Lyme, réalité ou imposture ». Collection bouquin « La maladie de Lyme, imposture ». Cette maladie a servi de laboratoire au complotisme et aux théories alternatives. Nous en parlerons tout à l'heure. C'est très intéressant parce que ça a un lien en plus avec le Covid et l'expression des uns et des autres autour du Covid. Le Covid. Eh bien tiens, réagissons tout de suite à cette annonce qui a été faite. Les collèges, les collégiens pourront aller en présentiel, j'aime pas, physiquement dans leur collège à partir de lundi. C'est une bonne mesure.
Bah oui, c'est une bonne nouvelle.
Bonne nouvelle.
Bah oui, c'est une bonne nouvelle qui correspond avec le reflux épidémiologique qu'on observe. Donc c'est normal qu'on donne un peu d'espace de liberté.
Bien, professeur Combe, parlons de la vaccination. Près de 25 millions de Français vaccinés, première dose, 46% de la population de plus de 18 ans, plus de 10 millions de doses. Tiens, je fais juste une petite comparaison parce qu'on parle beaucoup du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, 56% première dose. On est en train de rattraper notre retard. On est presque au niveau de la Grande-Bretagne. Immunité collective, c'est 80% de la population adulte, de la population dans son ensemble.
Idéalement, c'est ça. Sachant qu'il vaut mieux atteindre l'immunité collective la plus haute possible dans les groupes les plus à risque, c'est-à-dire chez les personnes âgées.
Bien. À partir de lundi, tous les Français de plus de 18 ans vont pouvoir se faire vacciner. Alors, il faut prendre rendez-vous. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et peut-être bientôt à partir de 16 ans. Vous préconisez la vaccination à partir de 16 ans ?
Moi, je pense que plus on vaccine de gens, mieux c'est. Donc, il faut se vacciner en masse. Et ce qui est très intéressant, c'est l'engouement des jeunes pour cette vaccination.
Oui.
Ça, je dois avouer que je suis très heureux de constater ça. Oui, pas surpris, mais heureux en tout cas. Un peu surpris peut-être, mais surtout heureux parce que ils vont tirer tout le monde vers le haut, y compris ceux qui sont rébarbatifs à cette vaccination.
Je vais y revenir. L'Agence européenne des médicaments va se prononcer aujourd'hui sur la vaccination avec Pfizer à partir de 12 ans. Là encore, vous pensez qu'il est nécessaire de vacciner les ados, les pré-ados à partir de 12 ans ?
Bah, disons qu'on sait qu'il risque pas grand-chose hein, sur le plan de la maladie, donc ça se discute plus. Je pense qu'il vaudrait mieux mettre le paquet sur les personnes qui sont réellement à risque, les personnes plus de 60 ans, parce qu'il y en a toujours qui sont pas vaccinées, même les personnes plus de 50 qui sont à risque, ou plus de 40. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des priorités.
Vous êtes réservé ?
Enfin, moi, personnellement, je pense que plus on vaccine un grand nombre de personnes, mieux c'est,
final. Donc, pourquoi pas,
exactement.
Est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce que c'est utile de vacciner les 12-16 ans ? Ou 12-18 ans ?
C'est sûr qu'ils font pas de forme grave, mais c'est utile d'un point de vue épidémiologique, vous voyez, pour diminuer la circulation du virus, par exemple, pour leur empêcher d'introduire le virus dans leur famille.
Oui, l'Académie de médecine se prononce pour cette vaccination. Vous la suivez ?
Oui, je la suis, oui, absolument.
Vous la suivez sans problème ?
Je la suis sans problème.
Il n'y a pas de danger particulier. Il n'y a pas. Je sais pas moi. Dans le cadre de la rentrée scolaire, par exemple, en septembre, est-ce qu'il faudrait vacciner les ados, les pré-ados ?
Écoutez, je crois qu'il faut voir les choses de manière objective. On a un outil absolument incroyable à notre disposition, le vaccin, pour prévenir cette maladie. Qui eût cru il y a un an qu'on aurait ce vaccin, ces vaccins à notre disposition et des vaccins aussi efficaces.
Oui.
Quand même, vous vous rendez compte, on a des vaccins qui sont probablement plus efficaces que l'immunité naturelle, c'est-à-dire que le fait d'acquérir l'infection, parce qu'acquérir l'infection, ça vous protège pas forcément contre certains variants, alors que vous avez certains vaccins qui vous protègent contre quasiment tous les variants, en tout cas contre les formes graves des variants. Donc on a des vaccins plus efficaces que l'infection naturelle. On a une chance absolument inouïe. Précipitons-nous.
Alors précipitons-nous, mais certains ne veulent pas se précipiter. Et Eric Combe, mais certains restent anti. Vous avez entendu les discours des anti-vaccins qui s'expriment dans certaines tribunes. D'ailleurs, on leur donne peut-être trop souvent la parole, je sais pas ce que vous en pensez.
Moi aussi, je pense qu'on leur donne trop souvent la parole, parce qu'on a envie de faire la polémique, le buzz. C'est vraiment, je suis attristé par ça, parce que les vaccins, c'est la prévention, et finalement, la prévention, c'est quand même ce qu'il y a de plus intelligent en médecine.
Qu'est-ce que vous dites à celui qui ne veut pas se faire vacciner?
Je lui dis qu'il oublie que mieux vaut prévenir que guérir, que prévenir, ça coûte quasiment rien à la société, alors que guérir, ça coûte une véritable fortune, et qu'en plus, il risque sa peau, quoi. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens risquent leur peau comme ça pour ne pas être vaccinés. Ça m'apparaît invraisemblable.
Alors, question, faut-il rendre la vaccination obligatoire ?
Alors, moi, je suis persuadé qu'elle doit être rendue obligatoire dans certaines professions, et notamment dans ma profession, déjà pour commencer.
Oui, chez les soignants.
Ça serait bien qu'on donne l'exemple, si vous voulez.
Oui.
Nous, les médecins, par exemple, on est vaccinés qu'à 80% dans mon hôpital.
Oui.
C'est pas tout à fait normal. Les infirmières, 50%, enfin un peu plus de 50%. C'est franchement anormal. Donc, je pense que la vaccination devrait être rendue obligatoire chez le personnel soignant, mais également chez tous les travailleurs dits de première ligne, les pompiers, les policiers.
Toutes celles et ceux qui travaillent dans les établissements scolaires.
Les enseignants, les universitaires, etc.
Oui, ça devrait être rendu obligatoire. C'est ce que dit encore l'Académie de médecine.
Écoutez, je ne fais pas partie de l'Académie
de
médecine.
Je sais, mais comment?
Je trouve que je suis d'accord avec eux, ça peut arriver.
Rendre obligatoire, donc, cette vaccination, c'est la seule solution pour inciter les Français à aller se faire vacciner?
J'espère que ce n'est pas la seule. J'espère que le fait d'avoir quand même, il faut qu'on leur rappelle qu'il y a eu 100 000 morts, probablement que chaque famille a été touchée dans son corps. Si ça ne leur sert pas de leçon, ils n'ont pas envie de se faire vacciner à partir de... Enfin, en voyant ça, on est en droit de se poser
des questions. Et ça coûte cher.
Et ça coûte évidemment très cher.
Tomber malade coûte cher à la société.
Ça coûte toujours beaucoup plus cher de prendre en charge les malades que de prévenir la maladie.
Le syndrome du vacciné. Je vous parle du syndrome du vacciné parce que beaucoup sont vaccinés première dose, attendant la deuxième dose, et tout à coup relâchent les précautions à prendre.
Ouais.
C'est dangereux? Parce que c'est pas parce qu'on est vacciné première dose. Est-ce que parce qu'on est vacciné première dose, on est à l'abri?
Ben non, on n'est pas à l'abri. Hein. Vacciner une dose, ça suffit pas. On est protégé environ 50%, on va dire. Mais par contre, il est probable que si on attrape le Covid, on fera pas de forme grave.
Voilà. Oui.
Ça demande encore à être confirmé. Mais de toute façon, il vaut mieux deux doses qu'une dose, ça c'est clair.
Deux doses qu'une dose. Les effets indésirables, il y en a. Ne pas cacher la vérité, mais est-ce qu'il y en a plus que ce qu'on croyait? Est-ce que...
Non, ça dépend des vaccins.
Là encore, je vois sur les réseaux sociaux des successions de fausses informations.
Ouais. Moi, je ne regarde plus les réseaux sociaux.
Oui,
je ne les ai jamais beaucoup regardés. D'ailleurs, il vaut mieux pas que je les regarde, parce que pour moi, ça serait assez terrible. Mais... Non, on a plus de recul quand même aujourd'hui sur les vaccins. Il y a eu des millions de personnes qui ont été vaccinées en Israël, au Royaume-Uni, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. On a quand même beaucoup de recul sur les vaccins. On sait que certains vaccins, comme le vaccin AstraZeneca, on a découvert qu'il y avait des problèmes. D'ailleurs, c'est un vaccin qui n'est plus très populaire et qu'on n'utilise plus beaucoup. Bon, on a pris en compte ça, malgré une balance bénéfice-risque qui aurait pu apparaître favorable dans certains groupes de population. Par contre, on a d'autres vaccins comme le Pfizer, le Moderna, qui sont des très très bons vaccins, qui sont très bien tolérés en dehors de petites douleurs. Bon, voilà, on est des Gaulois quand même, faut pas exagérer, quoi. Je croyais qu'on avait peur que d'une chose, c'était que le ciel nous tombait sur la tête, mais certainement pas d'injection de vaccin quand même.
Le pass sanitaire, indispensable?
Moi, ça me choque pas, je vous dis franchement. J'ai l'habitude du carnet international de vaccination pour voyager à l'étranger.
Donc, ce n'est pas liberticide à vos yeux?
Non, ce n'est pas liberticide à mes yeux. Surtout que les conditions de délivrance de ce pass sanitaire sont quand même assez larges. Hein. C'est à la fois être vacciné ou faire preuve qu'on n'est pas infecté ou faire preuve qu'on a eu l'infection et qu'on a des anticorps. Donc ça n'a rien de très exigeant.
Regardons la situation épidémique, professeur Ricaume. 146 morts ces dernières 24 heures. On est à 3206 patients en réanimation. Ça continue à baisser régulièrement, vous le constatez?
Oui, ça reflue.
Vous le constatez à la Pitié-Salpêtrière?
Oui, on constate très bien la Pitié-Salpêtrière, en sachant que les réanimations sont quand même les services qui se vident le plus lentement.
Le plus lentement,
parce que,
bien sûr.
Malheureusement, quand on est rentré en réanimation, on y est pour 3 à 4 semaines. Donc, ça prend du temps.
Est-ce que le profil des malades qui entrent à l'hôpital aujourd'hui a changé?
Oui, par rapport à la première vague, par exemple, ça a changé. C'était des gens plus jeunes, plus résistants. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils restent plus longtemps en réanimation.
Oui, aujourd'hui, ils sont plus jeunes et plus résistants.
Ils sont plus jeunes,
Donc, ils restent plus longtemps, évidemment, en réanimation. Question que tout le monde se pose. Est-ce que l'épidémie est derrière nous ?
Oui, on commence à en voir la fin, c'est évident. Enfin, en tout cas, disons que ça va dépendre de l'aptitude des Français à se vacciner, tout simplement.
Tout simplement. Tout dépend de cette... Ouais, en fait, c'est une responsabilité collective.
Absolument, c'est aussi simple que ça. Si tous les Français se vaccinent en masse dans les deux mois qui viennent, honnêtement, je pense que l'épidémie va être derrière nous assez rapidement.
Mais j'entends beaucoup de Français dire, l'épidémie maintenant commence à disparaître. À quoi ça sert ? À quoi ça sert de se faire vacciner ?
Eh ben, ça sert à qu'elle ne redémarre pas. Exactement. Oui. Parce que là, si on en reste à ce seuil de vaccination, ça va redémarrer dans les semaines et les mois qui viennent. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. On est à un seuil d'immunité collective qui est trop bas.
Qui est encore insuffisant.
Oui. Donc,
on ne se fait pas vacciner massivement, si on ne continue pas, l'épidémie redémarrera.
Ah oui, absolument. Parce que pour l'instant, il y a 15% de la population qui a attrapé le virus. Il y en a environ 10 millions, un peu plus de 10 millions qui est vacciné. Bon, à la fin du mois, on en aura 15 voilà, il faut 80% de la population, pas la moitié de la population, pour que le virus arrête de circuler à un haut niveau.
Est-ce qu'il est possible, professeur Combe, d'éradiquer ce virus de la surface de la Terre ?
Non, il ne faut pas rêver, on n'éradiquera pas ce virus avant... Puis vous savez, il n'y a qu'une maladie pour laquelle on a éradiqué
la variole.
C'est la seule. Oui. Hein.
Et comment ?
Grâce au vaccin. Exactement.
Oui, c'est pour ça que je vous posais la question.
Mais vous avez
comment
raison. Mais la variole, c'était une mortalité quand même effarante par rapport au Covid, si vous voulez.
Oui. Le vaccin a permis d'éradiquer la variole.
Ah ben oui, évidemment.
Mais est-ce que le vaccin permettrait d'éradiquer le Covid-19 ?
Alors, il y a le problème du réservoir animal. Oui. Il faut être sûr qu'on n'ait pas de réservoir animal, mais s'il y a qu'un réservoir humain, effectivement, on pourrait éradiquer, mais il faudrait que 80%, 90% de la population mondiale soit vaccinée. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop rêver.
La population mondiale.
Mondiale. Parce qu'il faut raisonner sur le plan planétaire quand on parle d'éradiquer.
Évidemment. Les variants, la Grande-Bretagne s'inquiète.
Oui, j'ai vu s'inquiéter du variant indien parce qu'il est un peu plus contagieux que le variant anglais, qui était lui-même un peu plus contagieux que le variant sauvage. Bon, des variants, il va toujours rien avoir. La bonne nouvelle, c'est que les vaccins protègent des variants aussi. Donc, concentrons-nous sur la vaccination plutôt que de nous concentrer sur les variants. Le jour où on a des variants qui échapperont à la vaccination, à l'immunité vaccinale, là, on aura de quoi s'inquiéter. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Isolement obligatoire pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni.
Écoutez, on va voir comment il fait l'isolement.
Oui, vous savez, je sais que vous avez des doutes. Vous avez remarqué, vous n'avez pas tort parfois.
Savoir faire une quarantaine.
Il y a franchement, depuis le début de cette épidémie, certaines choses qu'on a réussies et d'autres qu'on n'a pas vraiment réussi.
Oui, c'est sûr.
Aujourd'hui, on réussit. Est-ce qu'on réussit la vaccination ? Est-ce que la France réussit sa vaccination aujourd'hui ?
Écoutez, je pense que oui.
Vous pensez que...
Oui, je pense que... évidemment, on peut toujours mieux faire.
Oui.
Mais honnêtement, par rapport à tout ce qu'on a dit il y a 6 mois...
sais combien vous avez été critique.
J'ai pas été si critique que ça, parce qu'en fait, on savait pas, quoi. Bon, il y avait la pénurie, c'était tout ce qu'on savait. Mais maintenant qu'il n'y a plus la pénurie, je trouve que c'est géré très bien.
Est-ce que nous allons passer un été sans masque ?
Ça serait un très bon... Vous voyez,
je vous dis ça parce que pour la première fois, je vous coupe, professeur, comme pour la première fois, vous êtes sans masque avec moi, là.
Oui, c'est vrai.
C'est la première fois.
C'est vrai. On se relâche.
Vous êtes vacciné, moi aussi.
Voilà, on est tous les deux vaccinés. Honnêtement, je ne pense pas qu'on prenne énormément de risques. Il ne faut quand même pas exagérer. On est tous les deux vaccinés. On n'est pas malade. Bon, voilà.
Oui.
Le vaccin, c'est le secret.
C'est le secret. Dernière chose, avant de passer à la maladie de Lyme, parce que j'ai envie d'en parler, vous allez voir le lien avec le Covid. Professeur Eric Combe, l'origine du Covid-19. Alors, ça y est, ça revient sur le tapis.
C'est normal que ça revienne.
Fuite d'un laboratoire, c'est normal.
C'est normal, ça revienne sur le tapis. À partir du moment où on trouve pas de réservoir animal, on se pose tous la question de savoir comment c'est apparu. Et en plus, comme je l'avais écrit dans le livre sur le Lyme, sur le Covid, je pense que c'est apparu beaucoup plus tôt qu'on le dit en Chine et même en Europe. Hein.
Beaucoup plus tôt.
Probablement, c'est apparu en octobre, certainement à Wuhan. Donc, les jeux mondiaux militaires, je persiste à dire que ce sont les jeux mondiaux militaires de Wuhan, fin octobre 2019, qui ont contribué
à répandre
un petit peu la maladie. Par les militaires, finalement, par les sportifs.
Bon, et l'origine Fuite d'un laboratoire, c'est plausible ?
C'est plausible. Enfin, disons, tant qu'on n'a pas découvert le réservoir animal, c'est plausible.
Bien, Eric Combe, la maladie de Lyme, réalité ou imposture ? Alors, imposture majeure, est-ce que c'est une imposture majeure ?
Bah, c'est les deux. C'est une réalité qu'on ne va pas contester, ça existe vraiment comme maladie, mais tout ce qui relève du surdiagnostic, du surtraitement, tout ça relève d'une imposture.
C'est-à-dire, est-ce que la maladie de Lyme a beaucoup tué ?
Non, non, la maladie de Lyme ne tue pas. Enfin, il n'y a pas de mort déclarée.
Il n'y a pas de mort déclarée. Le paludisme, même le paludisme en France tue plus.
Oui, c'est ce que je dis dans le livre, effectivement. Il y a environ 10 à 15 morts du paludisme par an en France, alors que le paludisme n'existe pas en France, hein, c'est des voyageurs, alors qu'il n'y a pas de mort de la maladie de Lyme. Et la maladie de Lyme, ça fait moins de 1000 personnes hospitalisées par an en France. Donc, vous voyez, par rapport au Covid.
Mais que s'est-il passé autour de cette maladie de Lyme ? On a eu des commissions d'enquête à l'Assemblée nationale.
Des propositions de loi.
Des propositions de loi, des réunions de ne sais trop combien de députés, de sénateurs, des communications alarmistes, mais de temps de... Tiens, nous retrouvons le professeur Perron, nous retrouvons le professeur Raoult dans la maladie de Lyme. Je vous vois sourire.
Oui, parce qu'ils n'étaient pas d'accord à l'époque.
Ils n'étaient pas d'accord, voilà. D'accord.
Sur le Lyme, ils n'étaient pas d'accord. Sur le Covid, ils sont d'accord, mais sur le Lyme, ils n'étaient absolument pas d'accord.
Oui.
Raoul disait de Perron, c'était un saint pour le Covid, mais pour le Lyme, il disait que c'était un âne. Donc, en quelques années, la tendance a été renversée. Mais effectivement, on retrouve parmi les mêmes personnes. Le Lyme, pour moi, c'est des idées complotistes qui pénètrent quand même au plus haut niveau de l'administration, de certaines administrations françaises.
C'est même un complot politique ?
Je dirais pas un complot politique, mais je suis quand même très étonné du laxisme ou du sens de la démagogie des politiques qui les incite à plus écouter les associations que les scientifiques. À un moment, je dis que un président d'association a plus de poids auprès des politiques qu'une étude randomisée en double aveugle.
En double aveugle. Alors, la maladie de Lyme est une maladie sérieuse.
Oui, bah évidemment,
on ne peut pas
la négliger pour autant.
Mais vous dites 90% des patients venus me consulter pour cette maladie souffraient en fait d'une autre pathologie.
Oui. Mais je ne suis pas uniquement le seul dans ce cas-là. Ça a été également publié par les collègues de Nancy, ça a été publié par les collègues de Besançon, ça a été publié par les Américains avec près d'un millier de malades. Enfin, et puis surtout, c'était connu aux États-Unis déjà depuis 30 ans, quoi.
Mais quoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi cette volonté ? Pourquoi ces associations qui se sont créées ? Ces pressions sur les élus, sur les médecins ?
Ces pressions qui marchent très bien sur les élus, parce que les élus, ils sont garde à vous devant ces associations. C'est absolument incroyable pour moi.
Oui, mais même la Haute Autorité de Santé...
Alors, la Haute Autorité de Santé, c'est plus surprenant quand même, mais là, effectivement, elle s'est vraiment pris les pieds dans le tapis, quoi. J'ai déjà fait des choses pour la Haute Autorité de Santé, j'ai toujours trouvé que c'était plutôt sérieux et raisonnable. Mais là, pour le Lyme, je sais pas ce qui leur est arrivé, mais ils ont pété les plombs, quoi. C'est quand même absolument
Le directeur
incroyable.
Général de la Santé qui travaillait avec le professeur Perron.
Ah oui, alors ça, c'est vrai que le groupe Lyme... à la Haute Autorité de Santé était dirigée par Jérôme Salomon, qui à l'époque était le principal adjoint de Christian Perron.
Voilà. Donc on retrouve toujours les mêmes.
Tourne un peu en rond.
Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ? Quel était l'intérêt de créer ce mouvement médical autour de la maladie de Lyme.
Bah, pour les médias, je vais pas m'exprimer. Je pense que vous connaissez mieux le problème que moi.
Le suivisme.
Voilà, suivisme peut-être. Je sais pas. Le buzz. Faire de l'audience. J'en sais rien. Pour nous scientifiques, on a été relativement d'accord. Je veux dire, à part une petite minorité que j'estime à moins de 5%, mais 95% d'entre nous, on pense tous la même chose.
Vous savez qu'il y a des personnes atteintes de la maladie de Lyme qui vont peut-être hurler.
Probablement. Vous allez peut-être même recevoir des tweets ravageurs, et moi, je vais avoir des menaces de mort, probablement, en rentrant sur mon mail, sur mon courriel.
Des personnes qui disent, mais j'ai la maladie de Lyme, je suis malade, je suis un traitement. Il y a des traitements, d'ailleurs.
Ça se traite très très bien comme maladie. En quelques semaines d'antibiotiques, on n'a même pas besoin de prolonger les antibiotiques plus de 3 semaines.
En quelques semaines d'antibiotiques, on soigne une maladie de Lyme.
Pas plus de 3 semaines. Vous avez vu les ordonnances que j'ai mis dans le livre.
J'ai vu,
23 médicaments. Mais comment vous pouvez penser que 23 médicaments pendant des années peuvent soigner une maladie comme ça ?
Ça veut dire qu'on a donné des traitements C'est un scandale sanitaire.
Oui, quelque part, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, je pense que quelque part, c'est un scandale sanitaire, absolument. Parce qu'on a exposé des personnes à des traitements qui sont complètement inadaptés, inappropriés. Dans les ordonnances que j'ai montrées, vous avez vu, il y a des opiacés, il y a des anti-inflammatoires, il y a de la cortisone, il y a tout, exactement. Et mais malheureusement, il y a des antibiotiques qui prennent pendant des semaines, des mois, des années. J'ai un patient, c'est 5 ans d'antibiothérapie, et finalement, il avait une tuberculose. Il n'avait pas la maladie de Lyme. Donc, voilà, on découvre des choses comme ça chez 85% des malades qui viennent nous consulter pour maladie de Lyme.
Merci, Eric Combe.
Merci à vous.
Je vous invite, et là je le dis aux téléspectateurs et aux auditeurs d'RMC, je vous invite à lire le livre du professeur Eric Combe, Maladie de Lyme, réalité ou imposture. C'est une, c'est une imposture. Si j'emploie le mot, si vous employez le mot, vous l'employez en toute responsabilité. Hein,
ah, il y a une part d'imposture, oui, absolument.
Merci. 8h54, merci RMC et BFM TV.